Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans cette table ronde. Il paraît que c'est la formule obligatoire dans ces cas-là. Nous allons discuter ensemble et ensuite avec vous d'un thème qui est aussi vieux, semble-t-il, que l'information collective, mais qui est toujours d'actualité, le rapport entre médias et réalité. Et nous allons essayer de discuter de ce thème autour d'un esprit science-fictif pour en voir éventuellement l'avenir. Mais sans doute parce que ce sujet est encore plus sensible de nos jours, avec le développement de l'information partagée, autant dans sa consommation que dans sa production. Alors, qu'est-ce qu'il en sera demain et comment en traiter? Alors, pour en discuter, trois intervenants que je vais prendre dans l'ordre de proximité avec moi. Dominique Douai. Dominique Douai est un romancier qui a marqué la science-fiction française dans les années 70 et 80 et qui, après une éclipse, je crois, volontaire, revient avec des rééditions et surtout avec des ouvrages nouveaux, le dernier étant La fenêtre de Diane, qui vient de paraître au Mouton électrique. Jacques Reynal est un auteur de bande dessinée qui a publié, entre autres, dans Flux Glacial et chez Casterman, par exemple, ces albums que, personnellement, j'ai trouvé très étranges, Cambrioleur. Et il est aussi le scénariste de la série Francis. Pascal Thomas, enfin, est enseignant-chercheur en mathématiques à l'Université de Toulouse, mais aussi, en ce qui nous concerne surtout, très grand connaisseur de la science-fiction, et à ce titre, auteur de chroniques dans divers supports, en particulier dans le fanzine critique qu'il dirige, KWS, Keep Watching the Skies, et non pas The Stars, comme je l'ai cru au fond. Keep Watching the Skies. Et il se trouve d'ailleurs que Pascal Thomas est celui qui a eu l'idée du sujet de cette table ronde, donc je vais me venger bassement et lui passer d'entrée la parole pour lui demander qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a suggéré à la direction artistique des Utopiales une discussion sur ce thème. Pascal, c'est à toi.
Ben, j'avais en tête un roman de Dominique Douai.
Alors, tout va bien.
Qui n'est pas le dernier sorti, qui est le précédent, car les temps changent, mais c'est lui qui nous en parlera. Mais j'avais en tête aussi des choses comme un roman de Philippe Dick, La vérité avant-dernière. Donc je résume un petit peu l'intrigue, parce que Philippe Dick a fait tellement de romans, il faut tous les lire, mais il y en a quand même 30 ou 40. Dans La vérité avant-dernière, qui a été écrit dans les années 1960, l'humanité travaille, la plupart de l'humanité travaille dans des grands abris souterrains, parce que toute vie a été détruite à la surface. Et ils travaillent dur, parce qu'il va falloir un jour ressortir et rétablir la vie sur Terre à la surface. Sauf qu'un jour, quand quelqu'un sort sur la surface, il se rend compte que sur la surface, il y a des patrons qui ont des gigantesques propriétés et qui vivent tranquillement de la sueur des travailleurs dans les grottes, au fond. Bon, c'est un exemple de relativement grossier de maquillage de la réalité, bien entendu, par la propagande. Mais je pensais à des trucs un peu plus subtils aussi, comme ce qui se passe dans ce roman de Stanislas Lem qui s'appelle « Le congrès de futurologie ». C'est vieux aussi, c'est sorti dans les années 70, mais ça a été adapté au cinéma en dessin animé, curieusement, il y a 2 ou 3 ans.
Oui. Ah oui.
Par un metteur en scène israélien. Et je n'ai pas vu le film, mais je sais que dans le roman, il y a tout un passage où on découvre que toute la vie relativement luxueuse que chacun imagine est en fait totalement imaginaire, que les gens sont conditionnés à penser qu'ils ont des belles voitures alors qu'en fait ils ont des espèces de véhicules à pédales qui les font travailler durement, mais ils ne le voient pas. Donc bon, c'est ce que suppose le roman. De façon générale, je dirais quand même que la réalité, on la voit au travers d'un tas de représentations et de concepts, et que ces concepts sont souvent des mots qu'on nous invente, et de façon pas forcément machiavélique, hein, de façon spontanée. On dit les banlieues, on a une certaine idée, on traduit ça en anglais américain, on dira plutôt inner city, ce qui est exactement le contraire, mais qui correspond à la même réalité sociale. Alors que, bien entendu, c'est des chapeaux qui sont une distorsion par rapport à ce qui est vrai. Hein. Ça, c'est un exemple plus récent, et c'était après que j'ai suggéré à Hugo Bellagamba quelque chose autour de ces thèmes, c'est Aylan Kurdi. Alan Kurdi, c'est ce petit garçon syrien de 3 ans dont la photo du cadavre a provoqué un changement instantané d'opinion des gens et des gouvernements en 48 heures. Qui, d'un coup, exactement la même réalité, des choses tout aussi horribles et même bien plus horribles qui se passaient avant, ont semblé être découverts parce qu'il y avait une image qui avait été publiée partout. Voilà.
Oui, bon, je crois que 3 jours avant, il y avait 200...
Il y avait un camion avec 70 cadavres décomposés de gens qui essayaient de passer en Autriche.
Étouffés dans un camion.
Ils avaient été abandonnés dans un camion verrouillé de l'extérieur. Ça, il n'y a pas eu de photo.
Ouais.
Personne n'en a parlé pratiquement.
Ouais.
Et ça n'a pas du tout provoqué un élan d'indignation, de compassion. Alors que c'est beaucoup plus horrible si tu réfléchis. Mais cette photo de ce gamin bien habillé et mort, le pauvre, là par contre, tout de suite, ça a changé les choses. Et apparemment, plus dans les pays où la photo a été beaucoup publiée que dans celle où la presse a choisi de peu le publier. Alors quelle est la cause, quel est l'effet? Il faut être prudent, je ne suis pas sociologue, mais ça me semble un exemple frappant.
J'ajouterai juste un mot à cet exemple que tu viens de citer, c'est que la vague d'indignation qui a suivi la publication de cette photo a été quand même relativement brève, parce qu'on est en train de l'oublier. Et c'est pas si vieux. Messieurs, des remarques sur cette... On a cité un roman de toi, Dominique, tout à l'heure, il va falloir que tu réagisses là-dessus.
Réagir.
Je
préfère... Prendre les choses en amont. Hein. Et quant à la problématique de la table ronde, médias et réalité, à mon avis, il y a deux choses qu'il faut distinguer. D'une part, la manipulation de l'information, la manipulation donc volontaire de l'information. Et d'autre part, c'est un phénomène qui me paraît relativement nouveau, l'impossibilité matérielle de rendre compte d'une réalité objective compte tenu d'un phénomène qui est apparu avec l'Internet, qui est l'immédiateté de l'information, qui fait que même les médias les plus établis, je pense un journal comme Le Monde, par exemple, ne parviennent plus à valider l'information avant qu'elle soit diffusée. Donc, d'une part, sur le premier aspect, la manipulation volontaire, là, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien qu'on a cru découvrir dans les années 70, mais qui, en fait, remonte quasiment au premier jour de la presse écrite, où l'information donnée n'était pas obligatoirement la bonne information, mais était l'information que le pouvoir, avec un grand P, voulait voir diffusée. Dans toute l'histoire de la première partie du XXe siècle, on a toute une collection de photos, par exemple, de photos d'actualité, qui ont été transformées au fil des ans en faisant disparaître... Bon, ça, c'est toute l'histoire de l'URSS. Hein, on faisait disparaître petit à petit tous les personnages qui n'étaient plus... tous les persona non grata. Dans les années 70, ça faisait partie, je dirais, de la paranoïa ambiante. Les citoyens étaient l'objet d'un vaste complot politique, mais surtout économique. Et ça perdure, avec des faits qui ont été avérés. La puissance des lobbies, par exemple, sur l'information est un fait qu'on ne peut pas négliger, qu'on voit actuellement. Quelque part on dit que la viande rouge est mauvaise pour la santé, il y a le lobby des producteurs de bovins qui va se lever avec des motifs qui sont tout à fait admissibles et compréhensibles. N'empêche que ça biaise le débat, ça biaise l'information. Sur l'autre versant de la problématique, je disais le fait qu'il devient quasiment impossible de valider l'information avant qu'elle soit diffusée, on en voit l'exemple tous les jours. Je disais que le Monde, qui a longtemps été considéré comme l'outil d'information qu'on ne pouvait pas remettre en cause, le Monde lui-même n'est pas à l'abri des découvertes que l'on peut faire et qui montrent que telle ou telle information qui a été donnée était fausse ou n'était pas la bonne information. Mais à côté de médias comme Le Monde, il y a toutes les informations qui sont diffusées en continu, sur Facebook par exemple, par des personnes qui le font certes de toute bonne foi, mais qui ne pensent pas un seul instant à vérifier l'authenticité de ce qu'ils diffusent. Voilà, alors maintenant, sur ce que disait Pascal sur Car les temps changent, c'est vrai, ce livre parle d'un monde, d'une ville, Paris, mais on s'aperçoit très vite que le Paris qui est décrit dans le roman n'est pas celui que l'on connaît nous. C'est-à-dire que c'est un Paris qui est composé de poutrelles, d'escalators, d'ascenseurs, et en fait sur le modèle de la Tour Eiffel. Et les personnages vivent une année, et puis ils s'endorment, et lorsqu'ils se réveillent, ils ont tout oublié de leur existence passée, et ils recommencent une nouvelle existence pour un an, avec une nouvelle identité, quelquefois un sexe qui n'était pas le leur l'année précédente. Et tout ça permet effectivement d'asseoir le pouvoir. Le pouvoir peut difficilement être contesté lorsque les personnages n'ont pas de mémoire d'eux-mêmes. Voilà, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre sur. Il était très difficile souvent de parler des récits qu'on a écrits.
Juste un mot, Dominique, pour dire que ce que tu racontes de ton ouvrage, c'est vrai. C'est vrai que je pense qu'au 31 décembre, tout va s'arrêter. On va repartir à zéro. On n'aura plus aucune mémoire de ce qui se passe en ce moment. Mais on pourra pas le savoir puisqu'on n'en aura pas de mémoire. Et effectivement, moi, je me souviens bien, dans ton livre, on est avec des souvenirs vagues, mais avec des souvenirs quand même. Donc rien ne nous permet de savoir que nous vivons pas dans le monde que tu as décrit.
Tout à fait. Non, mais Pascal, j'espère bien avoir réveillé des sentiments complotistes.
Mais un élément frappant du monde. Alors, j'ai un peu oublié le livre parce que je suis pas aussi poisson rouge que les personnages du livre, mais ça commence à se faire. Mais un des éléments frappants, c'est que si je me souviens bien, le personnage découvre que quelqu'un qu'il considère comme une femme est un homme ou vice versa, parce qu'il n'avait pas bien regardé et que pendant longtemps il accepte un truc dont il se rend compte que ça ne correspond pas à la vérité. Il faut dire que le protagoniste, lui, est défectueux, c'est-à-dire qu'il se souvient de choses dont il ne devrait pas se souvenir, et c'est pour ça qu'il est la porte d'entrée du lecteur dans le livre. Mais il y a plusieurs moments comme ça dans le livre où il se rend compte qu'il vivait sur une illusion concernant soit une personne, soit un lieu, des choses comme ça. Je n'invente pas.
Oui, c'est-à-dire ce mécanisme est fondé effectivement sur la perte complète non seulement la perte de la mémoire, mais la perte des critères qui fondent l'existence. Ce qui fait qu'il y a l'apparence, il y a sa propre traduction de l'apparence, et le personnage peut très bien apparaître alternativement comme un homme et une femme, pour des personnes qu'il rencontre et qui ont des systèmes d'identification différents.
Oui, c'est un genre de sexe de Schrödinger, si je peux me permettre. Jacques Reynal, je crois, on parlait là un petit peu de médias politiques, mais
Dominique a évoqué aussi des problèmes d'information commerciale. Je crois me souvenir que dans un de vos albums, il y avait toute une réflexion sur on nous impose des façons de penser on nous impose plutôt des formules toutes faites qu'on se croit obligé de qu'on est obligé de croire sans y réfléchir plus loin que ça. Est-ce que ça a un rapport avec est-ce que ça nous rapproche des médias là, en l'occurrence ici?
Je crois qu'il y a un... Si je revenais un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'irruption de l'Internet et de ce que ça a changé du rapport aux médias et à la population, il y a eu cette idée qui était peut-être une des utopies lorsque l'Internet est apparu, que chacun gagnerait une liberté d'expression et aussi d'information et échapperait à ce qu'on supposait être auparavant des monopoles dans les médias ou dans la façon dont l'information se diffusait. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt que la multiplication des sources d'information n'a pas forcément donné une plus grande liberté individuelle. C'est-à-dire que on obtient les mêmes phénomènes de propagation de ce qu'on appelait autrefois les rumeurs, mais à une vitesse beaucoup plus grande. Et pour revenir à votre question, l'utilisation du langage, effectivement, est au premier plan, puisque ce sont des expressions toutes faites qui nous amènent peu à peu, malgré la liberté dont on devrait disposer sur un réseau comme Internet, à penser plus ou moins tous à peu près la même chose. Donc effectivement, il y a des mots-valises qui fonctionnent, que moi, dans mon travail qui est humoristique, j'utilise délibérément pour peut-être plus ou moins consciemment décrire un monde qui devient un petit peu effrayant. Par exemple, aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui craignent le burn-out. Il y a 10 ans, ils auraient appelé ça autrement. Voilà. On fonctionne comme ça avec des mots-clés. Donc, moi, un de mes personnages de BD, donc le Francis le Blaireau, vit dans un monde a priori très mignon, parce que c'est une parodie de bande dessinée pour enfants. Donc, il vit dans la campagne. Et en fait, tout son destin est complètement systématiquement dessiné à l'avance par un langage journalistique que je me plais à utiliser de façon délibérée. Donc, effectivement, il risque le burn-out à tout moment, il risque les troubles musculo-squelettiques, il risque...
Ça, je ne connaissais pas, tiens, par contre, ça m'a échappé.
Ça a été à la mode il y a quelques années, les troubles musculo-squelettiques.
Quand donc, les TMS, c'est ça?
Voilà.
Oui, d'accord.
Voilà. Oui, après, il y a un acronyme qui vient toujours... là, dans une des dernières histoires que j'ai écrites, il est attaqué par des perturbateurs endocriniens. Donc, je ne sais pas ce que c'est personnellement, mais
c'est des machins, pas bien du tout.
Voilà, c'est des choses.
C'est dans les plastiques, entre autres.
C'est des petites bêtes très méchantes. Donc, j'utilise moi ces expressions. Alors, c'est une ambition peut-être démesurée par rapport à mes capacités, mais c'est aussi une façon de peut-être de montrer qu'il y a une absurdité là-dedans dans le langage et que. La multiplication des sources d'informations, comme Internet, ne nous a pas protégés de ça. Au contraire, on continue à utiliser des mots qui sont un jargon dont on ignore peut-être le sens. Et ce que vous disiez aussi est très intéressant sur la rapidité, c'est-à-dire l'absence de vérification fait qu'on est très vite dans l'incontrôlable. C'est très difficile de faire entendre... une autre vérité quand celle, j'emploie délibérément le mot vérité parce que du coup les vérités elles sont multiples, où est la vérité, ça devient très, très difficile à définir, et une fois que certaines vérités sont lancées à toute vitesse, c'est très difficile de faire entendre autre chose. Je pensais à l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques années avec la campagne de vaccination pour le H1N1 qui était une campagne vraisemblablement très mal organisée, et il y a eu du coup un engouement pour des thèses anti-vaccins, qui sont des thèses qui sont aussi vieilles que Pasteur, et qui ont retrouvé une jeunesse incroyable. Et donc, moi, régulièrement, des amis m'envoyaient des liens vers des vidéos en me disant « va voir ça, les vaccins sont un complot ».
C'est épouvantable.
Voilà. Donc moi, en quelques clics, comme je me suis un peu spécialisé dans la recherche de ce genre de rumeurs, en quelques clics, j'arrivais à des sites très fantaisistes, qui étaient des sites sectaires ou des sites prédisant le, non pas l'arrivée prochaine, mais la présence effective de reptiliens humanoïdes qui nous contrôleraient. En très peu de temps, j'arrivais à des sites qui, moi, m'amusent beaucoup, mais qui sont très, très vite disponibles derrière des rumeurs qui ont un certain succès, comme celle-là, par exemple. Les vaccins sont mauvais.
Vous vous souvenez peut-être, parce que nous sommes d'une génération où on peut se souvenir de ça, de cette affaire de la rumeur d'Orléans. Il y a assez longtemps, c'est, je crois, dans les années, au début des années 70, à Orléans, courait le bruit que des jeunes filles étaient enlevées dans certains commerces, alors je ne me souviens plus exactement lesquels, et qu'elles étaient ensuite envoyées...
Malheureusement, des commerces
des
juifs.
De prêt-à-porter, juifs. Des cabines d'essayage qui servaient à...
Non pas de portes temporelles, mais de trappes pour les enlever. Mais ce qui est frappant, c'est que cette rumeur-là, il y a eu un livre qui a été écrit dessus après.
De Edgar Morin, ouais.
Oui. Est né lentement, s'est propagé lentement, et il a fallu beaucoup de temps pour qu'on finisse par en entendre parler hors d'Orléans, et qu'on réagisse, et qu'on finisse par écrire un livre là-dessus, et qu'on finisse par convaincre tout le monde que ce n'était qu'une rumeur. Maintenant, ça se serait propagé dans la semaine, grosso modo,
oui.
À peu près.
Et c'est ce qui s'est passé il y a exactement un an, avec la rumeur des clowns maléfiques,
oui.
Qui est partie d'une vidéo humoristique d'une équipe de télé anglaise, et qui s'est propagée à une vitesse folle, ce qui fait qu'on a véritablement commencé à voir des clowns maléfiques dans les rues. Moi, j'en ai pas vu, mais et ça a eu un certain succès jusqu'à ce qu'un autre événement, donc je pense que c'est vraisemblablement les attentats de Charlie Hebdo, sont venus complètement oublier, faire oublier ces dangereux personnages. Pour
il y a effectivement le phénomène du un clou chasse l'autre, et voilà. ça va très vite, voilà. Ça prend une importance démesurée et ça s'arrête très vite pour être remplacé éventuellement par autre chose. Oui, c'est vrai. Je me souviens de, pour en revenir aux médias à proprement dit, alors cette fois-ci, vous vous souvenez, vous avez même peut-être lu il n'y a pas longtemps, du roman Jack Baron et l'éternité, où une sombre histoire de récupération du sang humain pour assurer l'arrêt du vieillissement de richissimes plutocrates est élucidée non pas par un détective ou un aventurier, mais détecté à travers une émission de télévision qui est menée par un nommé Jack Baron et qui finit par élucider cette affaire-là. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est qu'il y a eu dans les années 30 un livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, dont j'ai oublié le titre, et qui raconte un peu la même histoire d'utilisation du sang, mais en l'occurrence là c'était du sang de chimpanzé. Là aussi, pour assurer la vie éternelle toujours à de richissimes plutocrates. Mais là, la presse n'intervenait pas. Les médias n'intervenaient pas. Mais à ma connaissance, c'est sans doute le bouquin Jack Baron est un des premiers, sans doute, à avoir mis en relief l'importance que les médias pouvaient avoir pour poser, éventuellement, résoudre des problèmes sociétaux de ce genre-là. Je ne sais pas si tu te souviens, Pascal, de ce bouquin. C'est dit, ouais.
Mais quel est le point du commentaire ? C'est-à-dire, tu veux dire que Jack Baron, si je me souviens bien, c'est plus dans ce cas-là, la figure des médias est un justicier.
Elle le devient d'ailleurs. Je crois qu'autant que je me souviens, lui, il hésite à poser le problème de façon complètement. Il fait ça. C'est une émission qui est extrêmement populaire, donc c'est presque une émission de variété. C'est pas un peu comme l'émission de Ruquier, toute proportion gardée, 40 ans avant et aux États-Unis. C'est une émission de divertissement, mais il se prend au jeu et il finit par interroger les éventuels responsables de cette affaire de façon de plus en plus serrée. Et par les coincés. Et donc, c'est vraiment le média télévisuel dans toute sa splendeur, et au début d'ailleurs de sa splendeur, dans les années. Ça date de 68, 9, 10, hein, cette affaire-là, si je me souviens bien, autour de ça.
Oui, le livre a dû être écrit en 69, oui. Je pense, oui. Mais je pense aussi que Spinrad a tourné autour de ces histoires de médias et de représentation. D'une part, qu'est-ce qui se passe dans notre réalité ? Je ne crois pas que les médias aient. Même si Internet est là, je ne sais pas s'ils ont encore tant perdu que ça de leur influence. C'est-à-dire que je pense qu'ils donnent le « là » encore, et ensuite c'est repris et amplifié par un cœur de gens.
Tu veux dire le média télévisuel ?
Les médias télévisuels
oui,
et les médias organisés qui bénéficient d'une rédaction, d'un personnel qui est payé pour produire des contenus, et qui d'ailleurs, de nos jours, effectivement, les contenus politiques et de variété se sont totalement mélangés, semble-t-il. C'est ce que j'entends dire, parce que je ne regarde pas la télévision. Je suis désolé. Donc je suis une très mauvaise personne pour en parler. Mais Norman Spinrad a continué à faire des livres. Il est ici, d'ailleurs, je le signale. Et beaucoup plus critique. Par exemple, tu as Rock Machine, un livre des années 80, dans lequel tu as la musique comme moyen de contrôle social, plus ou moins, comme fabrication d'images totale à partir de quelqu'un qui est entièrement une marionnette. Et c'était à peine un livre de science-fiction, en fait. Et bien sûr, plus récemment, Il est parmi nous, qui est à la fois humoristique et effrayant. Donc, ça c'est une question. Par contre, la question sous-jacente, c'est est-ce que comme disait Jacques, est-ce que l'atomisation de la communication produite par Internet a produit vraiment une grande diversité, une grande possibilité de faire sortir des contenus nouveaux? Je dirais que pour le moment, non, mais le potentiel est là. Ça serait intéressant de voir un petit peu des avis.
Jacques Renal.
Moi, je ne serais pas si optimiste. Je crois que...
Ils ne sont pas optimistes, vraiment. Mais...
Je crois que les médias, je ne ferai pas une distinction énorme entre ce qu'on appelle les médias et ce qu'on appelle le public. C'est-à-dire que c'est toujours une affaire d'être humain. Et donc, on voit toujours se reproduire quand même des glissements vers une forme de simplification. Ce qui se passe en ce moment, par exemple, dans la presse écrite, c'est qu'il y a eu l'acceptation, étant donné les difficultés économiques des journaux qui se vendent très mal maintenant, que l'information est un produit. Le risque était qu'avec Internet, tout devienne gratuit. Et pour survivre, les journaux, les groupes de presse ont dû... Alors ça a pris 15 ans, parce qu'au début, ils ont été attirés par l'illusion du gratuit aussi. Que les gens allaient continuer à acheter leur journal tout en lisant son contenu gratuitement sur Internet le même jour. C'est pas ça qui se passe. Une fois que c'est gratuit, on n'achète plus, forcément. Et donc, depuis, ils ont réagi contre ça avec des formules payantes. Et c'est un peu instillé l'idée que l'information coûte cher, donc c'est un produit, donc il faut la vendre et l'acheter. Et y a, dans le même temps, il y a des grands groupes privés qui rachètent les journaux et qui sont souvent des groupes qui appartiennent aujourd'hui à l'industrie du luxe. Et donc tout se mélange un petit peu. Ça nous paraît normal que le journal le plus lu en France appartienne à quelqu'un qui vend par ailleurs des bouteilles de parfum. Et est-ce qu'il y a une différence entre une information et un produit commercial? Le doute est permis. Alors à partir du moment où l'information devient un produit, moi comme je suis par ailleurs graphiste, je sais qu'un produit se vend mieux quand il y a un logo, quand il y a quelque chose de séduisant. Donc, ce qui veut dire qu'il faut rendre l'information séduisante pour la vendre. Donc, la simplifier, la rendre plus belle. Alors, on parlait tout à l'heure de la photo du petit Eyeline qui a changé les mentalités, effectivement, pendant quelques jours, quelques semaines. C'est peut-être une photo, c'est horrible ce que je vais dire, mais une photo belle, réussie, qui a imprimé. Et c'est pour ça. Voilà. Oui. Et donc, le danger, il me paraît là. On parlait aussi du langage tout à l'heure, c'est que notre appréhension du réel, si elle ne passe que par le langage, que par des photos réussies, il y a quelque chose d'un peu inquiétant là-dedans. C'est-à-dire que et l'atomisation des médias et donc l'apparition d'Internet n'a pas fondamentalement changé notre façon de réagir aux informations. On continue à être séduit par une histoire quand elle est belle. Et quand l'histoire n'est pas assez belle, on va en inventer une autre qui est plus belle. Donc c'est... Les théoriciens du complot, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils résument une réalité très complexe à une histoire très simple. C'est-à-dire telle personne, tel bouc émissaire, généralement toujours les mêmes, nous veut du mal. C'est plus simple, c'est plus beau. C'est-à-dire qu'on va résumer la réalité à une fiction qui nous satisfait plus.
Ce qu'on appelle le storytelling, voilà. Entre autres domaines, dans le domaine politique, mais ça existe aussi dans des domaines tout à fait différents, en économie en particulier aussi, effectivement. L'information n'est plus une série de faits organisés et reliés entre eux, mais une histoire qu'on raconte. Ce qui est donc, pour des auteurs de science-fiction, ou des amateurs de science-fiction, ou des amateurs de littérature, en fait de fiction en général, c'est intéressant de voir ça, parce que le fabricant de fiction, tout d'un coup, se voit doté d'un rôle
de transporteur, mais éventuellement de fabricateur de la réalité, de la réalité de l'information. Et c'est un rôle étrange. Normalement, là, même si la vérité est difficile à cerner quelque part, ou s'il y en a plusieurs, on imaginait mal il y a quelques années qu'elle puisse être transférée en inventant une histoire fictive, pas complètement fictive évidemment, parce que sinon elle serait pas crédible, mais embellie,
mais ce glissement-là, restructurée. En politique, par exemple, ce glissement-là avec ce qu'on a appelé les spin doctors, qui ont popularisé cette notion de raconter une histoire. Ça a été accepté avec une docilité extrême. C'est-à-dire que est-ce qu'on revient en arrière pour savoir si quelle est la réalité ? Pas vraiment. On va comparer différents storytelling. À la prochaine élection, par exemple, on va comparer l'image de l'un et l'image de l'autre. Qui il est vraiment, c'est plus vraiment le sujet.
Ce sont maintenant des personnages de fiction.
Voilà.
Des characters, comme on dit en anglais, d'histoires racontées. Tony Blair vient de faire une grande déclaration disant qu'il avait des regrets quant à la participation de l'Angleterre à la guerre d'Irak. Mais ça aussi, ça relève du storytelling parce qu'il explique pourquoi. Et en gros, la seule chose qu'il dit, c'est tout ce qu'on nous a dit sur les armes de destruction massive qui étaient en Irak. Effectivement, on s'est gouré, c'était pas vrai. Point final. Voilà, sans regret, ça va être là. En gros, c'est assez surréaliste de l'entendre dire ça.
Cette histoire est amusante parce que le mythe des armes de destruction massive, c'est un complot. Là, c'est pour le coup.
Là, vraiment, oui. Là, c'est vraiment
un vrai complot. Comme le. Alors là, je vais peut-être m'aventurer sur un terrain que je maîtrise moins, mais le début de la guerre du Vietnam, c'est les Américains qui ont tiré sur une corvette au large des côtes, qui ont imputé ensuite l'attaque au Viet Minh. Et c'était un complot. Et aujourd'hui, qui se souvient que la guerre du Vietnam a été lancée par un complot ou que l'invasion d'Irak a été lancée par un complot ? Alors que moi, quand je discute avec des complotistes, ça m'arrive, j'ai envie de leur dire, mais oui, il y a des complots. Par exemple, il y a celui-là. Et là, je sens un désintérêt profond parce que c'est pas séduisant. Bush a menti, Colin Powell ont menti à la télévision américaine pendant des mois en nous expliquant...
Et à l'ONU,
que Saddam Hussein possédait des armes très puissantes. On savait que c'était pas vrai, ça n'a pas empêché le déclenchement de la guerre. Et c'est pas assez intéressant pour les amateurs de sensations fortes ou de fiction. Les vrais complots font des bides, je trouve ça dommage.
Alors, cela dit, indépendamment de la notion de complot, à l'époque, la presse, une partie de la presse en tout cas, avait mis le doigt sur le fait qu'effectivement, cette affaire d'armes de destruction était loin d'être prouvée.
Oui.
Très loin d'être prouvée. Mais oui. Bon. D'une certaine manière, la presse là a joué son rôle.
Il y a toujours une presse qui joue son rôle, mais c'est toujours un mouvement de balancier. Là, on est clairement dans une période, par exemple, où les climato-sceptiques sont entre guillemets grillés, mais ils reviendront d'une autre façon.
Jolie formule.
Ils reviendront d'une autre façon parce qu'on a besoin de douter aussi, et c'est légitime.
Oui, oui, oui. Les médias comme générateurs de doutes. Mais de doutes rationnels cette fois-ci, pas de doutes complotistes, je dirais. Un autre point que... Non, en fait, la question que je me posais, c'était que finalement, on s'aperçoit que dans la littérature de science-fiction, c'est un thème qui est quand même relativement peu traité. Sauf quand il s'agit, alors cette fois-ci, de réalité dédoublée ou de réalité paranoïaque, ou je veux dire, par exemple ce qu'on trouve chez Dick, un peu chez Dominique aussi d'ailleurs, où il y a des parentés là. Sauf quand il s'agit de ce genre de choses où on ne sait plus très bien quelle est la vraie réalité réelle, indépendamment de ça. Quand la thématique d'un roman nous met face à une réalité tout à fait objectivée et réaliste, on voit peu apparaître le thème de circulation de l'information. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce que c'est un thème intéressant. C'est peut-être aussi parce que assez souvent en science-fiction, les sciences dites exactes, les sciences dites dures, sont mises en avant et qu'on s'interroge peu sur le fonctionnement des sociétés, la psychologie des individus, et donc des phénomènes comme les phénomènes de transmission de l'information. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que j'évoque en passant.
Ou parce que ça fait des meilleurs romans d'avoir une réalité totalement factice et des faits extraordinaires, mais que je vois, moi, comme un écho, un choc en retour transmis et changé et sublimé par l'auteur de la réalité présente dans laquelle, ou même passée, dans laquelle il vit, d'un monde où il voit que les mots cachent la réalité. Il vaut mieux avoir un univers artificiel avec des choses extraordinaires qui s'y passent que d'aller s'embêter à dépiauter la manière dont les journalistes ou la télévision gauchite a vu sur l'univers. C'est d'abord plus difficile à faire et ensuite ça se vendra sûrement moins bien.
Oui.
Mais cela dit, il y a eu un... J'en profite pour sortir un de mes dadas. Il y a eu un auteur qui était un auteur plutôt considéré comme un auteur humoristique que comme un auteur de science-fiction, qui dans les années 60 a fait un livre très drôle sur ce genre de choses. C'était Robert Escarpit, qui s'y connaissait puisqu'il écrivait un billet dans Le Monde tous les jours, il a fait ça pendant 30 ans je crois, qui a écrit un livre qui n'a pas été présenté comme un livre de science-fiction et qui est plutôt un livre humoristique et satirique qui s'appelle Le Littératron.
Oui.
Et c'est dans l'ambiance des années 60.
C'est un livre de science-fiction.
Moi, je le considère comme un livre de science-fiction, si tu veux. C'est une invention magnifique. Le Littératron, ça a écrit des discours. En fait, ça a écrit des discours à la Le Pen d'avance. Le Pen n'existait pas. Enfin, Le Pen existait, mais son parti n'existait pas sous sa forme actuelle à l'époque. Et il montre comment, grâce à cette machine qui génère du texte, en lui donnant certains paramètres, on peut gagner des élections avec un discours populiste. C'est un des aspects du livre, mais il y a tout un tas d'autres aspects. En particulier, il montre comment cette invention n'a du succès, pas parce qu'elle marche, mais parce qu'elle a le bon nom. Un nom avec tronc à la fin. Parce que c'est la mode à ce moment-là et que seules les choses avec tronc à la fin vont bien marcher. Et c'est un des points très importants du livre. Je pense que ça a été réédité. En tout cas, si vous le trouvez, Robert Escarpit, Le Littératron, c'est à pisser de rire.
C'est très drôle. C'est quand on connaît un peu les milieux des sciences humaines qui travaillaient pour les institutions publiques, je pense qu'il a effectivement regardé ça très près parce qu'il les a tout à fait bien vus. Cela dit...
Il était universitaire aussi et il... pastiche beaucoup, je trouve que c'est au moins aussi fort que David Lodge qui a du succès maintenant. Hein, mais dans le milieu de l'université française des années 60, il y a des pages magnifiques.
Alors ça marche parce que ça s'appelle quelque chose tronc, mais ça marche aussi parce que ça marche. Je veux dire, à la stupéfaction générale, le mec qui propose ça à une équipe de militants politiques n'arrive pas à les convaincre de le faire, ils finissent par se décider à le faire en n'y croyant absolument pas. Et le résultat dépasse complètement leurs espérances, et c'est très cynique en fait comme bouquin. T'avais pas lu ça toi, Dominique, en son temps?
Si, oui. Mais je pense que c'est un excellent exemple pour montrer ce qu'est la science-fiction par rapport à l'information. C'est-à-dire que La science-fiction, lorsque j'écris un roman de science-fiction, j'écris un récit, une pure invention, et qui est présenté comme tel. Dans les années 70, vous m'excusez d'avoir des souvenirs de dinosaures, mais dans les années 70, il y avait un mouvement qui avait été impulsé dès les années 60 par un livre qui s'appelait Le Matin des Magiciens, coécrit par un spécialiste de la science-fiction, Jacques Bergier, et Louis Powells, qui était un excellent écrivain et aussi un idéologue de l'extrême droite. Et en fait, ce livre était un recueil de toutes les bizarreries présentées comme des faits avérés. La Terre serait creuse, par exemple, et on vivrait à l'intérieur. Et
comment, c'est pas vrai?
Elle est plate.
Bien sûr.
La Terre est plate.
Elle peut être plate aussi. Oui. Elle est à la fois plate et creuse.
Effectivement, c'est tout à fait.
C'est ça, la science-fiction.
Et à la suite du Matin des Magiciens, tout un tas de livres, des centaines de livres, étaient sortis dans les années 70 sur des phénomènes bizarroïdes. Je parle les secrets de l'île de Pâques, par exemple.
Le triangle des Bermudes.
La collection Roger Or, l'aventure mystérieuse.
Voilà.
Je les collectionne, moi. Mais...
non, mais c'est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est présenté comme des faits finalement avérés. Alors qu'en fait, moi j'avais un copain, pour Daniel Riche, pour ne pas le citer, qui était rédacteur en chef de la revue Fiction, et qui arrondissait ses fins de mois en écrivant ce genre de livre. Il partait de rien.
Quel nom ?
Une multitude de noms.
De pseudos.
Mais, oui.
J'ignorais qu'il avait fait ça.
Il écrivait ça à la chaîne et il inventait tout. Et je suis sûr qu'encore maintenant, il y a des gens, des lecteurs qui tombent sur ces livres et qui se disent, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Voilà, ça, c'est c'est le vrai monde dans lequel nous vivons. Alors, si je parle de ça, on est loin en apparence du sujet de la table ronde. Mais c'est parce qu'il existe toujours, chez certains, vous n'en faites sûrement pas partie, ou alors levez le doigt, mais une confusion entre la science-fiction, qui ne prétend que raconter des histoires, et éventuellement, à travers ces histoires, dénoncer une situation. Après tout, Heyerdahl, qui vient de décéder, avait déclaré un jour que la science-fiction était le genre littéraire le plus proche de la philosophie. Donc, confusion entre des récits, qui ne prétendent souvent pas autre chose qu'être des récits, et des pseudo-sciences, des quasi-sciences, peu importe comme le nom qu'on leur donne, qui prétendent détenir la vérité. Et j'en parle parce que j'observe qu'actuellement, on se trouve un peu dans la même confusion. Heureusement, a priori, les utopiales échappent à ce phénomène, mais j'ai participé la semaine dernière à une table ronde où cette confusion était entretenue. Et Dieu sait que ça marche actuellement, par le biais d'Internet, il y a un renouveau de ces croyances à des faits bizarroïdes, et plus ils sont bizarroïdes, mieux ça passe. Et je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, la science-fiction se trouve liée, plus ou moins, dans l'esprit de certains organisateurs à ce phénomène.
Alors, si tu te souviens bien, Le livre dont tu parles, Le Matin des Magiciens, contenait aussi trois nouvelles de science-fiction merveilleuses. Il y avait Les 1000 milliards de noms de Dieu de Clark. Il y avait un Cantique pour les Bovitz de Miller, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et le troisième, j'ai oublié ce que c'était. Mais donc, en même temps, tu vois, cohabiter dans le même bouquin, c'est faribole. Et puis, des nouvelles de science-fiction qui sont en plus de très très bonne qualité. Jack Lennon.
Je pense qu'il y a un malaise qui s'institue dès lors qu'on ne définit pas l'objet qu'on va présenter au public. Est-ce un roman ? Est-ce un récit ? Moi, j'ai involontairement joué avec ce malaise dans mon premier livre, Flux glacial, où j'étais notamment inspiré, non pas par Le Matin des Magiciens, mais par ce que faisait le fabuliste anglais Charles Fort, qui avait publié le livre des maudits, des faits maudits. Et il se livrait à ça, c'est-à-dire il collectait des rumeurs. Alors lui, la différence, c'est qu'il collectait des rumeurs qui étaient assez anciennes, et donc il y avait le mythe des pluies de poissons, des pluies de grenouilles qui remontaient à la Bible. Il y avait, donc mon préféré, les phénomènes d'autocombustion spontanée, c'est-à-dire les gens qui prennent feu soudain.
Couverture de Pink Floyd qui illustre ce phénomène.
Tout à fait. Et il les a collectés dans ce livre. Mais il y avait quand même un souci de former une anthologie de choses qui circulaient déjà depuis un certain temps. Le Matin des Magiciens, je crois qu'ils se sont... Je le connais moins, mais...
Il le cite.
Il me semble qu'ils... Voilà, il le cite. Et ils se sont aussi prêtés à l'exercice qui consiste à inventer de toutes pièces certains mythes. Et à partir de ce moment-là, la confusion grandit. Moi, quand je présentais ce premier album où je parlais de combustion spontanée, je parlais d'invasion, pas d'invasion, mais d'enlèvement par les extraterrestres, parce qu'il y a eu plusieurs phases. Et donc, moi, c'était au milieu des années 90, et on était dans cette période où on redoutait pas tant d'être envahi par les extraterrestres, mais d'être enlevé dans notre sommeil et qu'on allait nous poser des implants, etc. Et donc, quand je fais des bandes dessinées humoristiques sur ces sujets, et très souvent, on me demandait, mais est-ce que tu y crois ? Et moi, ça me paraissait complètement secondaire. Moi, c'est un intérêt...
Oui, c'est de la fiction.
Voilà, c'est de la fiction. Moi, j'ai un intérêt émerveillé pour ces choses-là, même si je suis conscient que derrière les phénomènes de rumeurs, derrière les mythes qui circulent, il y a parfois des gens avec des arrière-pensées qui sont assez dangereuses. Mais aujourd'hui, il se passe un phénomène, notamment sur Internet. Il y a même un mot pour ça qu'on appelle le « fake lore », c'est-à-dire l'invention d'un folklore faux. Et là aussi, on constate ce que vous disiez, c'est-à-dire une accélération immense des choses. Il y a un personnage qui est issu d'un jeu vidéo qui s'appelle Slenderman, qui est donc un personnage qui est une nouvelle figure du croque-mitaine. Et c'est un personnage très grand, très maigre, qui enlèverait les petits-enfants pour les emmener dans la forêt. Et en 2-3 ans, sur Internet, en particulier aux États-Unis, ce personnage s'est imposé comme l'épouvantail préféré des jeunes ados américains, au point que deux adolescentes américaines ont commis un meurtre en se disant que c'était le Slenderman qui leur avait dicté. Et le problème, c'est là où il y a une accélération, c'est que le créateur du Slenderman est un type très connu qui, dans l'industrie du jeu vidéo, il a créé un monstre de fiction.
Sans le vouloir.
Et il est lui-même dépassé par le fait que ce monstre de fiction est devenu un personnage auquel, généralement, de jeunes adolescents ont envie de croire. Donc l'envie de croire, elle est, je pense, à la base de peut-être la vocation de beaucoup d'entre nous, auteurs de science-fiction. Mais le glissement vers l'envie de croire et la croyance réelle n'est pas sans danger.
Finalement, médias et réalité, ce n'est pas seulement les médias face à la réalité, c'est les médias qui créent une réalité nouvelle, qui a des effets opératoires, hélas, négatifs. Oui. Avez-vous un avis sur la question ? Oui, au moins un avis, sinon une question, une remarque, une critique. Cet avis demande un micro. Le voilà. Alors, non. Toujours pas ?
Un, deux, trois ? Ah, oui, c'est bon.
Ça marche.
Oui. Je vais essayer de faire court, mais parce que je trouve que j'ai été assez déçu de cette table ronde où on a surtout évoqué le thème de la falsification de la réalité avec les médias. Alors que je trouve qu'il y avait aussi un thème très intéressant qui était celui de l'altérité. Parce que, sans parler des médias, mais aussi juste quand la façon de comprendre un texte de manière différente, il y a 10 000 façons de le comprendre à cause de 10 000 façons. Alors, je vais essayer d'en citer quelques-unes comme ça. Donc, il y a déjà le phénomène du jeu de mots où, de manière générale, un mot a toujours 2, 3, 4 sens différents. On n'utilise jamais le même. Il y a l'effet de sélection, qu'on n'utilise jamais les mêmes passages pour se rappeler d'une information. Et ça, je veux dire, c'est pas anodin. Après, il y a aussi le fait, dans un texte, on va toujours interpoler et extrapoler ce qui s'est passé avant, ce qui se passe entre les cases. Et on interprète toujours différemment ces choses entre. Après, il y a aussi les histoires de théories, selon les théories de chacun, et aussi l'histoire de paradigme. Quand on étudie l'histoire, la société et même les différents groupes qui existent actuellement, tout le monde a des paradigmes très différents. Et il faut qu'on se rende compte des paradigmes qu'on avait il y a 20 ans et qu'on a maintenant. Mais on se rend compte qu'on pensait, mais pas du tout de la même façon. Et juste déjà sur ces quelques passages, ces quelques raisons, ce sont des raisons qui font que la réalité est différente avec les médias et juste avec la façon médiatique d'exprimer la réalité. Et je croyais que ce thème pouvait être très intéressant et vraiment abordé dans les récits de science-fiction.
Merci. Un mot là-dessus ? Une réaction à ces suggestions ?
Disons que ce qui est intéressant, c'est de peut-être se demander comment ces paradigmes sont créés. Et forcément, c'est par une forme ou une autre de communication collective. que donc le mot média, ça recouvre un peu ça à notre époque. Mais...
Faut le généraliser encore plus que ça. Ouais. Autre question, autre remarque. Oui, derrière. Bonjour. Là.
J'ai le micro, j'ai le pouvoir, paraît-il.
Eh oui, bah c'est là. Donc, ah oui, d'accord. Oui,
voilà, je suis là. Donc, je vais essayer de faire bref aussi, parce que sur cette table ronde, j'aurais beaucoup de choses à dire. Trois remarques. La première, j'ai la chance d'avoir fait un doctorat en psychologie sociale. Vous disiez tout à l'heure que dans la science-fiction, on ne parlait pas assez du fonctionnement des individus. Je vous rassure, je suis très content, parce que dans Asimov, on trouve des choses avec la psychohistoire, on trouve des choses chez Alain Damasio, on trouve des choses chez Orwell, on trouve des choses chez Kim Stanley Robinson. Peut-être qu'il nomme pas les auteurs que je maîtrise très bien, mais je retrouve quand même mon compte. Et d'ailleurs, dans votre table ronde, j'ai trouvé des auteurs, Moscovici, Michel-Louis Roquette pour les rumeurs, tout ça, donc j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes. La deuxième remarque, c'est effectivement sur le décalage entre réalité décrite par les médias et réalité vécue par les lecteurs. Et moi, il y a un exemple que j'évoque régulièrement par rapport à ça, c'est la sécurité, et notamment la question de la violence. Je pense notamment aux travaux de Laurent Michelli, dans un bouquin qui s'appelle « L'invention de la violence », qui montre qu'en fait, on vit dans une société qui est l'une des moins violentes de l'histoire de France. On se tuait à 1600 homicides il y a 25 ans, 800 homicides en 2010, ça fait deux fois moins, mais ça fait suffisamment pour avoir au moins un homicide par jour sur le journal de TF1. Donc l'individu qui regarde le journal de TF1 tous les jours, au bout d'un moment, ça laisse une trace. C'est partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si on rajoute en ça les coups et blessures graves, les chemises arrachées, etc., on a l'impression que la France vit dans une société hyper violente, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui augmente, en revanche, c'est le sentiment d'insécurité. Et il y a un paradoxe que Michelli relève, que je trouve intéressant, c'est que ceux qui ont le plus peur d'être victimes de violence, ce sont les plus de 80 ans, mais ceux qui sont le moins victimes de violence, ce sont précisément ceux qui ont plus de 80 ans, avec un risque qui va parfois jusqu'à proche de 0%, il n'y a pas de risque zéro, bien entendu. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, on peut aller encore plus finement dans les choses, c'est sur la façon dont on présente les informations. Ça a un impact sur nos représentations. Si je dis, par exemple, 16 éoliennes produisent 64 millions de kilowattheures, ce qui permet de fournir 40 000 foyers en électricité. On va avoir l'impression, parce que 40 000, c'est beaucoup, que les éoliennes sont très, très productives. Si maintenant je dis 64 millions de kilowattheures, c'est 1,6% de la population d'un département qui est fourni en électricité. C'est une même réalité, c'est la même information, les deux sont vrais, mais dans la deuxième, j'ai l'impression que ce n'est pas efficace. Et en fait, et je terminerai là, c'est quand il y a en psychologie sociale tout un courant de travaux sur le traitement de l'information, et il y en a un qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant, c'est les travaux de Petit et Cassiopo sur le traitement central périphérique de l'info. Central, quand je lis un texte, je vais à fond, je décortique tout. Je regarde tout. Quel est le chiffre? D'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il est présenté? Et il y a le traitement périphérique qui est le traitement de surface. Celui qu'on se contente d'avoir quand on regarde la télévision, qu'on ne maîtrise pas bien le sujet. Et là, on va faire appel à ce qu'on appelle des heuristiques de raisonnement. Par exemple, les experts ont toujours raison. Si Alain Minc dit qu'il faut ouvrir les marchés partout à tout va, c'est un expert. J'y connais rien en économie, donc il aura raison. Voilà. Donc je voulais apporter ces éléments-là par rapport à la réflexion. Et ajouter également, et je termine vraiment après, si je peux me permettre de dire tout ça, c'est aussi grâce aux médias. Donc finalement, est-ce que les médias ne nous informent pas autant qu'ils nous déforment sur la réalité? Merci.
Bonne question.
Vas-y, je voulais Pascal, remercier l'auditeur qui aurait dû être à notre place. Et, non, mais c'est vrai. Il m'a rappelé quelque chose que je voulais dire, en fait. Lisez Les Menhirs de glace, qui est une œuvre, c'est le deuxième roman de Kim Stanley Robinson, je crois, qui est construit en trois novellas enchaînées les unes après les autres. Et chacune détricote les représentations qu'on s'était faites dans la précédente. C'est un livre tout à fait intéressant par sa structure.
Pascal ?
Pascal,
Jack.
Oui, peut-être pour vous répondre ainsi qu'au précédent intervenant qui a posé une question. On a peut-être donné la sensation ici d'une forme de détachement ironique par rapport au complot, aux rumeurs, et parce que j'en retiens peut-être le côté amusant. La question que vous soulevez, ainsi que vous, c'est quand même celle de l'usage de la mauvaise foi dans l'information. Et la mauvaise foi, alors on parle d'Internet, on parle des dangers qui nous menacent ou des armes futures. La mauvaise foi est une arme d'une efficacité absolue depuis toujours. Et oui, je ne sais pas s'il existe un complot, mais il existe une utilisation de mauvaise foi de toute information. Et toute information, vous montriez le point de vue qu'on peut avoir, par exemple, sur les éoliennes ou sur la viande rouge. Ou sur, on peut faire dire tout et son contraire à n'importe quelle information. Et d'où ce que vous disiez également en conclusion est vrai, les médias nous informent autant qu'elles nous déforment. Donc ça veut dire qu'on doit être dans une vigilance extrême à partir du moment où on s'informe, où on essaye de s'informer. Car les ressources de la mauvaise foi sont sans limite. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Je crois qu'il y avait quelqu'un au troisième rang là, qui levait la main tout à l'heure et qui... Il y en a même deux, mais je crois que lui était avant, puis il y en a un deuxième là-bas.
Alors,
raté, il a le micro, il a le pouvoir.
J'ai le micro, j'ai le pouvoir. En fait, j'ai retourné cette question un peu de différentes façons dans ma tête et je l'ai posée comme ça. Finalement, à ce que j'ai cru comprendre, on se retrouve face à des médias qui nous envoient toujours un flot d'informations, des informations, même pas forcément pour nous inventer, mais des informations pour qu'on puisse les acheter. Et du coup, il est difficile de s'informer efficacement. Et du coup, pour avoir votre point de vue, je vais juste vous demander à vous quatre, comment est-ce que vous informez? Comment est-ce que vous gérez dans votre quotidien les médias? Est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce que vous regardez la télé? Quand une information vous paraît intéressante, comment est-ce que vous la recoupez? Est-ce que vous la...
Comment avec mauvaise foi.
Critiquer une information.
Non, mais... avec naïveté parfois aussi.
Bah, je pense qu'il y a une technique très simple qui consiste déjà à multiplier les sources d'information et l'inventivité des gens qui construisent des informations n'est pas sans limite. Donc on a tendance à retomber très rapidement sur les mêmes sources quand elles sont mauvaises et sur les mêmes sources quand elles sont bonnes. Donc c'est quand même, je dis pas que c'est facile, mais il y a une pratique de la collecte d'informations qui permet peu à peu de se repérer assez vite. Et je ne peux que dire ça, c'est-à-dire la seule façon peut-être d'arriver à se faire une opinion sur une information, c'est de multiplier ses sources d'informations et donc d'aller voir aussi... ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux avec qui vous n'avez pas envie d'être d'accord. Et la vérité se fait peu à peu comme ça. Mais on a des situations dans lesquelles la vérité est très longue à émerger. Après, le danger dans la multiplication des informations, le danger dans un certain type d'informations qui sont produites et donc qui deviennent des produits, c'est de l'idée que l'information devient une opinion, c'est-à-dire que les faits n'existent plus. C'est-à-dire, selon votre opinion... tel fait sera distordu d'une façon qui vous convient. C'est là que c'est très dangereux, puisque les faits existent quand même. Des choses se sont produites. Et la vigilance est forcément nécessaire. Les sources d'informations doivent être multiples, mais l'arrière-pensée qui est derrière certaines informations doit être identifiée. Sinon, le réel n'existe plus, pour revenir au sujet.
Eh bien, on va partir du principe que le réel n'existe plus. On va partir aussi du principe que cette table ronde n'existe plus puisqu'elle est terminée. Et nous vous remercions de votre attention et de votre participation, effectivement.